La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à tous, les Goncourt n'aimaient pas Napoléon III, ni non plus la République, ni les parvenus, ni la bohème, pas plus que les grenouilles de Bénitier. En fait, ils détestaient les gens passés et même les gens à venir. Et pourtant, comme nous l'a dit Pierre Ménard au cours de notre première émission, à force de les fréquenter, on leur pardonnerait presque leurs défauts. Leur grande œuvre, c'est peut-être leur journal qui a des airs de comédie humaine balzacienne. Journal dont Éléonore Reverdier et Jean-Louis Cabanès nous ont parlé au cours de l'épisode 2. Un numéro à retrouver sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Les frères Goncourt admiraient le XVIIIe siècle charmant, libertin et hédoniste qu'on trouve par exemple dans les peintures de Fragonard, comme Le Verrou. Pourtant, ils appartiennent totalement à ce XIXe siècle moderne qu'ils méprisaient un peu. Eux qui sont nés respectivement en 1822 pour Edmond et 1830 pour Jules. Ils y appartiennent notamment littérairement par le naturalisme dont Edmond s'estimait le père, comme nous l'a expliqué dans le troisième épisode de cette série mon invité Pierre Dufieff. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour parler des femmes dans l'œuvre des frères Goncourt, nous serons en seconde partie de cette émission, juste après la chronique de Pierre Glaude, avec l'universitaire Barbara Giraud. Elle s'est penchée justement sur cette question dans l'ouvrage « L'héroïne goncourtienne entre hystérie et dissidence » publié chez Peter Lang. Mais d'abord, nous avons le plaisir de vous recevoir. Bernard Vouilloux, bonjour à vous.
Bonjour.
Alors vous êtes professeur de littérature française à la Sorbonne et vous écrivez aussi bien sur des auteurs d'aujourd'hui comme par exemple sur Pascal Quignard que sur ceux d'hier comme les frères Goncourt à qui vous aviez consacré, c'était il y a déjà pas mal d'années en 1997, un essai intitulé « L'art des Goncourt, une esthétique du style ». C'était aux éditions de L'Harmattan, L'Harmattan où d'ailleurs est édité le petit livre des Goncourt sur Fragonard qui était donc l'un de leurs peintres préférés avec aussi Watteau et Chardin. Alors est-ce qu'on peut justement considérer que les Goncourt sont un peu des historiens de l'art, Bernard Vouilloux ? Ce sera ma première question.
Oui, ils prêtent une très grande attention aux documents et une spécificité justement de leur art du XVIIIe siècle, c'est que les textes qui présentent l'œuvre des différents articles sont suivis de documents d'époque qu'ils ont pu glaner au cours de leurs recherches en bibliothèque ou de leurs acquisitions chez les brocanteurs dont ils étaient des clients assidus.
Oui, parce que alors l'art du XVIIIe siècle dont vous parlez, c'est l'un de leurs livres justement sur l'art, sur l'histoire de l'art. Et vous dites d'emblée, Bernard Vouilloux, qu'en fait, leur vie tourne autour de l'art. Ils font les brocantes, ils vont d'une boutique de curiosités à un éventaire de marchands d'estampes. Leur vie est totalement imbriquée avec cette recherche du bel objet, de la belle toile, de la belle gravure.
Oui, le collectionneur tel qu'il se vit au XIXe siècle est d'abord un grand marcheur, un piéton de Paris. Et le journal justement raconte les pérégrinations d'Edmond Goncourt après la disparition de Jules dans les différentes boutiques d'anciens. Et cela le mènera aussi du côté des marchands d'estampes japonaises qui vont relayer dans ces choix d'objets, en quelque sorte, les dessins, les objets, les manuscrits, les vieux papiers du XVIIIe siècle.
Alors, je voudrais citer un extrait de leur journal à la date du 4 décembre 1868. Ils écrivent « L'art aura rempli notre vie ». En acheter, en créer. Aller comme aujourd'hui de l'achat fiévreux d'un admirable Louis XVI de 500 francs au portrait psychique écrit ce soir de Madame Gervaisé, c'est toute notre existence. Quant au reste, c'est bien peu pour nous. Bernard Vouilloux, un commentaire sur cette citation.
Il y a une continuité entre les objets de la collection et l'écriture. Et cela se perçoit très très bien à la lecture de La Maison d'un artiste, le livre que Edmond Goncourt va publier en 1881. Il s'agit de la maison d'Auteuil qu'ils ont acquise juste avant la mort de Jules. Jules va mourir dans l'une des pièces du grenier. Grenier d'ailleurs qu'aménagera au début des années 1880 Edmond pour en faire un lieu où il recevra ses amis et ses relations du monde des lettres et des arts. Et donc, la maison d'un artiste, c'est celle d'un artiste qui collectionne et qui écrit ses collections. Et ce sur quoi je veux vraiment insister, c'est sur le contact direct d'Edmond Goncourt. Jules avait évidemment... cette qualité peut-être à un plus haut degré encore, le contact direct avec les objets et les heures d'attention amoureuse que cela induit. Et donc, on pourrait dire que la collection fait quelque chose à leur écriture, et c'est l'écriture artiste.
Alors, pour prendre un exemple de ce que vous dites, je vous propose d'écouter dès maintenant un extrait de La Maison d'un artiste, cet ouvrage que vous citiez, lu ici par Françoise Lebrun.
Cet Olympe du plafond, devinez avec quel argent il a été payé. Avec le gain de Germini Lacerteux, c'est bizarre, n'est-ce pas, cette mythologie de Natoire, achetée chez Veil, avec le succès d'un noir roman réaliste. À ce nom de Veil qui revient sous ma plume, de souvenirs. Et les heureuses séances passées avec mon frère en ces grandes pièces obscures, où je vois encore ces deux vieilles, longues, pâles, silencieuses femmes vous déroulant automatiquement sur des châssis pendant des heures, et cela avec de petits rires enfantins sous leurs éternels bonnets de nuit, les plus belles tapisseries du monde. C'est de chez Veil que vient également le meuble de Beauvais du salon, représentant les fables de La Fontaine d'après Oudry. Ce dossier est le coq et la perle, ce siège est le corbeau voulant imiter l'aigle, ici c'est le renard et la cigogne, là le singe et le chat. Et ainsi, en des tableaux de nature de la convention la plus aimable et du plus frais coloris, rondissent et se bombent les imaginations du fabuliste, sur des fauteuils à l'évasement fait pour les grands paniers du siècle.
Est-ce qu'on peut parler d'un mode de vie, Bernard Vouilloux, quand il s'agit d'évoquer le rapport à l'art des Goncourt qui vivent, on l'entend, au milieu d'une espèce de beauté qu'ils cherchent à fabriquer avec des objets achetés avec soin ici et là?
Tout à fait. Tout à fait. Il porte au plus haut point l'idée esthétique telle que la définissait Kant, c'est-à-dire une idée qui n'est pas arrimée à un concept, mais pour reprendre alors la formule d'un autre philosophe, disons à une forme de vie. Donc ces œuvres, ils en ont besoin, ils ont besoin de les voir, de les toucher, de les palper, de les rassembler autour d'eux. Et rien n'est plus opposé finalement au musée, justement, qu'une maison de collectionneurs. Les musées, ils les fréquentent lors de leurs déplacements, évidemment, hein, en Italie. Italie, en Allemagne, en Hollande. Mais c'est bien, comment dire, la maison qui est comme une sorte de conque dans laquelle vont pouvoir se nouer toutes sortes de relations entre les œuvres du XVIIIe siècle, les livres, les éditions rares d'écrivains, leurs manuscrits les estampes japonaises, les bibelots qu'il collectionne.
Alors cet univers protecteur, est-ce qu'on le retrouve comme un décor aussi dans leur fiction ? Est-ce qu'il y a des personnages de dandy comme eux qui s'intéressent à l'art ?
Alors, oui, d'une certaine manière, Coriolis est amoureux de l'art du Japon. Il y a des pages magnifiques, justement, sur l'ukiyo-e, cet art de l'estampe qui est porté pour Edmond Goncourt à son plus haut degré à la fin du XVIIIe siècle, avec Utamaro, avec Okusai un tout petit peu plus tard. Et on peut voir aussi dans Manette Salomon l'histoire d'un échec, l'échec d'un artiste justement qui n'a pas su faire passer son goût acquis au contact des objets collectionnés dans sa propre peinture. Il y a là comme une sorte d'autocritique latente ou de mise en garde adressée à soi-même. N'oublions pas que Edmond dira par la suite que Jules, son frère, s'est tué au travail, et notamment en travaillant à Manette Salomon et à Madame Gervaisé.
Alors vous dites qu'il s'intéresse beaucoup à l'art du Japon, à Okusai en particulier. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le goût des Goncourt, qui n'était c'est le moins qu'on puisse dire, je crois, pas tellement orthodoxe pour leur époque?
Oui, alors dans un passage du journal, Edmond fait un parallèle entre les deux 18e siècle qu'il a chéri successivement. Et très curieusement, on s'attendrait que dans cette comparaison, il accorde en quelque sorte la primauté au XVIIIe siècle français. Eh bien non, pas du tout. C'est le XVIIIe siècle japonais qu'il privilégie pour sa fantaisie, c'est-à-dire pour la capacité des artistes japonais à ne pas introduire de solution de continuité entre les scènes de la vie courante et les rêves, les monstruosités de l'imagination.
Est-ce que c'est une forme de romantisme ?
C'est. Alors. Peut-être, dans la mesure où, justement, dans ce passage du journal, Edmond dit que le XVIIIe siècle français, c'est le classicisme du joli. Et je crois que, Edmond Goncourt a quelques préventions contre le romantisme. Enfin, le plus grand peintre produit par le romantisme, c'est Delacroix. Il le considère comme un peintre littéraire, c'est-à-dire encore un peu trop soumis aux idées. Et ce qu'il apprécie dans l'art du Japon, et que lui et son frère appréciaient déjà dans l'art du XVIIIe siècle, c'est un consentement, en quelque sorte, à la matérialité des supports, des différents papiers, matérialité des pigments et des techniques qui les associent, le goût pour le lavis qui favorise les effets de transparence, mais même la peinture à l'huile dans ses effets de cristallisation, rencontre leur adhésion.
Donc cette idée de la matérialité, est-ce qu'on pourrait aussi en tirer comme conclusion que ce qu'ils aiment, c'est l'art pour l'art ? Il faut que l'art ne dise rien d'autre que lui-même.
Ah, alors vaste question. Ils étaient très proches de Théophile Gautier, il est vrai, mais leur art d'écrire, leur écriture, a assez peu à voir avec ce que Gautier appelait la transposition d'art. Je ne pense pas que ce soit encore, en cette seconde moitié du XVIIIe siècle, au programme des écrivains et d'écrivains comme les Goncourt. Il y a une esthétisation de la vie, hein, indéniablement, que l'on va trouver, alors comme quintessencié avec un Robert de Montesquieu, qui d'ailleurs fréquente le grenier dans ses années 1890. Mais je pense que ils ont véritablement inventé une voie, parce que chez aucun des écrivains romantiques on ne trouvera une telle attention au possible ouvert par l'attention à la matérialité justement des œuvres, qu'il s'agisse de dessins, de tableaux, d'aquarelles, de gouaches, et ainsi de suite.
En chemin de fer avec Carpeaux, qui déborde une esthétique fiévreuse. Le beau, pour lui, est toujours la nature, le beau trouvé comme le beau à trouver. Pour lui, le corps humain actuel, dans ses beaux échantillons, offre d'aussi beaux exemples que la Grèce. Il y a encore des athlètes comme ce sans-garde, qui fait un trou à une pièce de vin et la boit en la tenant au-dessus de lui. Pour lui, comme pour tous les gens de talent et d'avenir de ce temps-ci, il n'y a pas d'idéalisation du beau, il n'y a que sa rencontre et sa perception. Bref, c'est un artiste, capable de faire un croquis en omnibus, ce dont le blague, comme un imbécile sans talent, l'académique Cabanel. Ce Carpeaux, une nature de nerfs, de violence, d'exaltation, une figure à la serpe, toujours en mouvement, avec des muscles changeant de place et des yeux d'ouvrier en colère. La fièvre du génie dans une peau de marbrier.
La compagnie des œuvres sur France Culture. Alors en voilà un qu'ils aiment bien, c'est le sculpteur Carpeaux. Pour quelle raison? Est-ce que vous pouvez nous redire ce qu'on entendait déjà un petit peu dans cet extrait du journal de 1865, mais pour que ce soit plus évident pour nous, qu'est-ce qu'ils aiment en particulier chez Carpeaux?
Eh bien, je reprendrai une formule employée par Edmond Goncourt, le beau du vrai, qui l'oppose justement au beau idéal, hein, élaboré théoriquement au XVIIe siècle, par Giovanni Pietro Bellori, et qui va être réassumé entièrement par Winckelmann et les partisans du néoclassicisme. Le beau du vrai, et quand justement Edmond Goncourt essaie de le définir, il parle d'une opération de rassemblement, qui n'oublie rien, aussi bien la trivialité du fait observé que le souci de la forme. Alors cela suppose, dit-il, et il oppose cela justement à l'opération du daguerréotype, hein, il y a des passages sévères, mais qui sont en résonance avec beaucoup de propos de l'époque contre l'objectivité photographique qui ne trie pas, qui ne hiérarchise pas. Et donc dans cette opération de rassemblement, c'est le sceau de l'artiste qui va se marquer en quelque sorte. Et là, on trouve une autre définition, hein, qui est celle du style comme empreinte. Hein. Le style, c'est donc la manière propre dont l'écrivain, le peintre vont opérer cette opération de rassemblement qui est le signe de ce qu'il appelle le beau du vrai.
Donc le vrai, c'est une forme de sincérité, et cette idée de vrai rapproche de l'individualisme de l'artiste. Parce que finalement, ce qui est vrai, ce qui est sincère, c'est ce qui n'est pas académique, donc ce qui surgit de l'intériorité, de la subjectivité finalement de l'artiste.
Oui, mais Pour autant, on n'entre pas dans une logique qui serait la logique expressiviste ou expressionniste, en quelque sorte, qui donne le primat à la subjectivité. Dans le texte sur Carpeau, Edmond parle très bien, enfin les frères Goncourt parlent très bien d'une rencontre. Il y a donc, et je reviens à ce que j'ai dit précédemment, s'il y a rencontre, c'est qu'il y a aussi attention à ce qui se produit, à ce qui est là devant vous.
Alors, je vous propose d'écouter ce que disait Francis Jourdain au sujet de l'opinion des frères Goncourt sur un certain nombre de peintres de leur temps. Et vous allez voir que, apparemment, ils sont passés à côté d'un certain nombre de grands noms.
Parce qu'il avait fouillé beaucoup de cartons d'estampes, fureté chez de nombreux antiquaires, eut le mérite très réel de s'apercevoir que ni Hokusai ni Utamaro n'étaient des sauvages, aimait très excessivement la préciosité des petits mets du XVIIIe siècle, ses confrères lui ont reconnu en matière d'art plastique une sensibilité qui semblait être pour le moins discutable, des qualités d'intuition, à mon avis trop souvent défaillantes, un flair dont il est permis de douter, quand on pense à ce qu'a vu, ou à plutôt à ce que n'a pas vu, à ce qu'aurait dû voir ce soi-disant connaisseur né en 1822 et mort en 96. 1822, 1896, quelle époque pour la peinture. Goncourt l'aura vécu, sans soupçonner qu'il n'en fut pas de plus riche, de plus varié. Goncourt a vu mourir David, mourir Bonington, débuter Bonnard. Il a vu naître et mourir Manet, Van Gogh, Yonkin. Quand il avait 20 ans, Ingres, entré dans la gloire, avait encore 25 ans de travail devant lui. Le génie de Delacroix était en pleine maturité, et aussi celui de Corot et celui de Daumier, dont l'atelier était encombré de chefs-d'œuvre. Goncourt leur préféra les aimables fadeurs de Gavarni, du pauvre petit Gavarni, comme il préféra Nitis à Degrasse, Helleu à Renoir, Cognet à Ingres, Tartampion à Pissarro, n'importe qui à Sisley, je ne sais quel Moreau l'aîné à Millet, je ne sais quel Moreau le jeune à Monet, Boucher à Toulouse-Lautrec, et tout le monde à Courbet, sans parler de Cézanne, dont il n'eut jamais la curiosité de regarder une toile, et de Seurat, dont il ignorait jusqu'au nom.
La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Sont passés un petit peu à côté d'un certain nombre des grands artistes de leur temps. Bernard Vouilloux, qu'en pensez-vous ?
C'est on ne peut plus exact. C'est un évitement systématique de tout ce qui compte, en fait, de peinture pour nous aujourd'hui.
Alors comment ça se fait ? Ça, c'est quand même un aveuglement assez incroyable pour des gens qui se piquent de connaître l'art parfaitement.
Oui, eh bien, souvenons-nous qu'ils n'ont exercé une activité de critique d'art que très brièvement pour le Salon de 1852 et l'Exposition universelle de 1855. Mais ils sont d'une certaine manière fermés à beaucoup d'événements qui leur sont contemporains. Dans le domaine de la littérature, ils sont également très sélectifs. C'est que finalement, leur grande époque, c'est le 18e siècle. Et je pense que Barbara Giraud parlera justement du très grand nombre de portraits de femmes du 18e siècle que l'on trouve dans leur œuvre. Et on pourrait dire, par conséquent, en reprenant le titre du livre de Huysmans, qu'ils marchent à rebours de leur époque. Manet n'est admiré dans le journal que pour trois prunes admirables enlevé au lavis au bas d'une lettre.
Oui, et puis on pourrait aussi citer Degas, que Edmond appelait ce oui. peintre bizarre, ce qui est en effet une mécompréhension probablement, même certainement, de la peinture de Degas.
Oui, tout à fait. On n'en finirait pas d'établir cette espèce de palmarès négatif de tous les artistes à côté desquels ils sont passés. comment dire, il y a un extrait du journal sur Carpo qui était cité tout à l'heure, eh bien, incompréhension complète de l'œuvre de Rodin, par exemple, chez Edmond Goncourt.
Et pourtant, ils ont visité l'atelier de Rodin, comme on le découvre en lisant le journal.
De son atelier du boulevard de Vaugirard, Rodin nous mène à son atelier près de l'école militaire, voir sa fameuse porte, destinée au palais futur des arts décoratifs. C'est, sur les deux immenses panneaux, un fouillis, un emmêlement, un enchevêtrement, quelque chose comme la concrétion d'un banc de madrépore. Puis, au bout de quelques secondes, le regard perçoit dans ces apparences de madrépore du premier moment les ressauts et les rentrants, les saillies et les cavités de tout un monde de délicieuses petites académies, pour ainsi dire remuantes, que la sculpture de Rodin a l'air d'emprunter à l'épique dégringolade du Jugement dernier de Michel-Ange, et même à de certaines ruées de multitudes dans les tableaux de Delacroix, et cela avec un relief sans exemple, et que lui seul et Dalou ont osé. L'atelier de la rue de Vaugirard renferme une humanité toute réelle. L'atelier de l'île des Cygnes est comme le domicile d'une humanité poétique, tirée du Dante.
On entend quand même l'admiration vis-à-vis de Rodin ici. Vous ne trouvez pas, Bernard Vouilloux ?
Mais on pourrait trouver d'autres passages du journal où il reproche à Rodin comme à d'autres artistes, et en particulier aux artistes impressionnistes, de ne pas savoir aller jusqu'au bout de leur démarche et de ne pas réaliser.
Et pourtant, s'ils ont une prévention à l'égard de l'impressionnisme, on peut dire que leur écriture, on l'a vu tout le début de cette semaine, est un petit peu impressionniste. Est-ce que ça n'est pas paradoxal ?
Alors, là, il faudrait remonter à la genèse de ce qu'on a appelé l'impressionnisme littéraire, c'est-à-dire à l'article de Ferdinand Brunetière, qui date de 1879 et qui va véhiculer une sorte de doxa. Il y a des manières d'écrire, des tours, des procédés d'écriture dans les écrits des Goncourt qui ont été versés au compte de l'impressionnisme littéraire, mais Edmond oppose constamment les impressions fraîches du Japon à l'impressionnisme. Et il accuse les impressionnistes d'avoir volé leur tâche aux estampistes japonais. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la tâche, pour lui, la tâche impressionniste en tant que tâche volée n'entretient plus cette relation de proximité, de contiguïté, cette relation indiciaire avec l'individualité artiste. Elle est un simulacre de tâche. Alors bien évidemment, nous sommes tout à fait libres de ne pas adhérer à cette conception des choses, mais il ne faut pas nier qu'elle est dotée dans l'esthétique latente, non complètement théorisée d'Edmond Goncourt, d'une cohérence certaine.
Alors on va parler dans un instant avec Barbara Giraud des femmes dans leur œuvre. Est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit mot sur la manière dont ils regardent la femme qui parfois est considérée par eux comme un chef-d'œuvre, elle est un petit peu objectivée comme objet d'art.
Oh oui, il y aurait beaucoup à dire sur la femme dans l'œuvre des Goncourt, dans tous leurs écrits. Il y a un véritable féminaire chez eux. Alors,
on peut citer d'ailleurs un certain nombre de titres parce que c'est assez éloquent. Entre La Lorette, Les Actrices, Sophie Arnoux, Histoire de Marie-Antoinette, Les Maîtresses de Louis XV, Sœur Philomène, La Femme du XVIIIe siècle, René Mauprin, Germini Lacerte, Manette Salomon, Henriette Maréchal, on pourrait continuer encore, Madame Gervaiset, La Fille Elisa, etc. Quasiment tous les titres de leurs œuvres sont des titres qui sont des noms de femmes ou qui font référence à des femmes.
Et comme on le voit, qui enjambe les époques, 18e siècle et époque contemporaine, et les milieux sociaux, puisque l'une des grandes préoccupations des Goncourt, si on en croit sa préface aux frères Zemgano, c'était de faire pour les milieux de l'aristocratie et de la bourgeoisie ce qu'ils avaient réalisé avec la Germini Lacerteux, pour les basses classes. Cela dit, lorsque Edmond reçoit dans son Goncourt, il reçoit les femmes, mais le plus tard possible, écrit-il, qu'elles viennent, mais tard, et elles ne l'intéressent qu'en tant que rameneuses d'époux. Il y a une misogynie certaine chez Edmond Goncourt, surtout, qui ne fait place à la femme, quand ce n'est pas une grande dame du XVIIIe siècle, que si elle se prête en quelque sorte à ses projections. Et il faut penser là aux très belles pages que l'on trouve sur les poses de Manette Salomon, modèle de Coriolis, avec cette oscillation permanente entre un corps qui est un corps esthétisé, un corps géométrisé en quelque sorte, un corps aussi incarné du point de vue des coloris, et puis un objet de désir.
Et ben voilà qui va nous faire une excellente transition avec la seconde partie consacrée donc au rapport entre les Goncourt et les femmes. Merci beaucoup Bernard Vouilloux, je rappelle votre livre L'art des Goncourt, une esthétique du style, publié chez l'Harmattan. Dans quelques minutes donc Barbara Giraud, juste après notre traditionnelle chronique du jeudi.
La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Une chronique du jeudi qui est une carte blanche proposée aujourd'hui à Pierre Glaude, professeur de littérature à Sorbonne Université et spécialiste de la littérature du 19e. Bonjour Pierre Glaude.
Bonjour Mathieu.
Alors vous nous parlez aujourd'hui de la question de l'art et de la vie, mais appliquée au cas des Goncourt.
Oui, on assiste au 19e siècle à une profonde modification du rapport de l'écrivain à son art, et les Goncourt en sont l'un des cas les plus exemplaires, me semble-t-il. Alors, pour comprendre cette évolution, il suffit de considérer l'abîme qui sépare Stendhal de Flaubert. Stendhal conçoit l'écriture comme une chasse au bonheur, la source d'un plaisir qui conjoint l'esthétique et l'érotique. Non pas une réclusion, non pas une ascèse, mais une jouissance propice à la sociabilité, au jeu de la séduction, en rien coupée de la vie et de ses agréments. Et pour Flaubert, au contraire, écrire implique qu'on s'isole, qu'on se plie à une austère discipline. Il s'agit de vaincre à chaque phrase l'obstacle du scrupule. Il faut tendre à la perfection de la forme. Dans un monde où rien n'est à la mesure du désir, cette perfection est pour lui, au fond, la seule expression de la plénitude. À l'évidence, les Goncourt, comme le montre leur journal, conçoivent leur art comme Flaubert. Ils participent d'un clivage fondamental, me semble-t-il, entre l'art et la vie, dans sa double dimension érotique et communautaire.
Alors comment se manifeste chez les Goncourt ce clivage entre l'art d'un côté et de l'autre la vie en société ?
De trois manières. L'écrivain digne de ce nom est d'abord, selon eux, un solitaire, une sorte de moine moderne laïcisé. Les Goncourt constatent souvent leur prodigieux isolement, c'est leur expression. Alors d'un côté, ils s'en plaignent. Ils se plaignent de n'avoir pas de relation, pas une maison où ils puissent aller passer une heure, dans de l'amitié et de l'affection, comme ils disent, pas une famille au bonheur de laquelle ils pourraient se frotter. Mais de l'autre, ils sont persuadés que leur vocation littéraire exige d'eux le sacrifice de toute autre aspiration, à commencer par l'amour et le mariage. Ensuite, cet isolement est la contrepartie de leur vocation littéraire, et il est aggravé par une sensibilité hors du commun. C'est ce qu'ils appellent leur exceptionnelle impressionnabilité. Et celle-ci leur fait ressentir intensément les manifestations du monde extérieur. S'ils sont artistes, c'est précisément en raison de cette extrême sensibilité qui leur permet de percevoir, dans l'ordre psychologique et moral, ce qui échappe aux autres hommes et ce qui leur permet d'en tirer des effets nouveaux dans leurs œuvres. Leur œuvre, précisément, est à leurs yeux le résultat d'un intense travail sur soi, ce qu'ils appellent une dépense de cervelle, qui est dans leur cas fastueuse, ce surmenage excessif qui les détraque physiologiquement et qui compromet leur équilibre. Mais le paradoxe est que ces névropathes, conscients de l'être, aiment au fond leur maladie. Elle est pour eux le prix à payer, la conséquence d'une vie pour l'art. C'est, disent-ils, une longue expiation de ne faire que de l'art. Enfin, c'est le troisième aspect du problème, vivre pour l'art, c'est assurer de surcroît le divorce avec la société de leur temps, subir toutes sortes d'avanies, être en butte à l'incompréhension du public bourgeois, pour qui comptent seuls les intérêts matériels, les questions utilitaires, passer pour se faire connaître sur les fourches codines de l'édition et de la presse à l'ère des médias, c'est-à-dire subir la loi des reins des intérêts commerciaux, et aussi le silence dédaigneux, voire les cabales de journalistes à l'esprit étroit, vénal ou frivole. Enfin, c'est subir l'hostilité des institutions culturelles qui accordent la reconnaissance et les honneurs à des eunuques, comme ils disent, les eunuques de la littérature, auxquels ils opposent leur œuvre, qui, elle, parce qu'elle est haute, paraît toujours suspecte.
Alors en conclusion, Pierre, est-ce qu'on pourrait dire que les Goncourt ont une sorte de coquetterie qui serait la coquetterie du martyr ?
Oui, la vie pour eux est un enfer. Mais cet enfer est le signe d'une supériorité qui renouvelle le topos aristocratique de l'homme né au-dessus des autres. C'est d'une certaine manière l'ultime paradoxe de ces modernes, hein, de ces hommes d'avant-garde. Leur martyr est en creux l'expression d'un désenchantement et de la nostalgie de notre temps, ce XVIIIe siècle qui est leur siècle d'élection, un siècle où les hommes de lettres pouvaient encore concilier l'intérêt de leur art avec les intérêts de la vie.
Merci beaucoup Pierre Glaude pour cet éclairage et cette analyse sur cette question de l'art et de la vie appliquée au cas des Goncourt. À très bientôt. C'est bien la Compagnie des œuvres que vous écoutez sur France Culture au dernier moment de notre série consacrée donc à ces infréquentables frères Goncourt. Nous avons parlé des peintres et sculpteurs qu'ils aimaient. Nous allons maintenant évoquer leur vision des femmes avec Barbara Giraud. Et on commence par cet extrait du journal qui est à la fois, qui est à la jonction justement de ces deux thèmes.
Je suis convaincu que depuis le commencement du monde, il n'a pas existé deux hommes vivants comme nous. Uniquement plongés, abîmés, engloutis dans les choses d'intelligence et d'art. Là où il n'y a pas d'intelligence ou d'art, il nous manque quelque chose comme la respiration. Des livres, des dessins, des gravures bornent notre vie, nos yeux même de tous côtés. Feuilletés, regardés, nous passons notre vie à cela. Là est notre centre. Ixant tabernacula mea. Rien ne nous en tire, rien ne nous en arrache. Nous n'avons aucune des passions qui sortent l'homme d'une bibliothèque ou d'un musée, de la contemplation, de la réflexion, de la jouissance d'une idée ou d'une ligne. L'ambition politique, nous ne la connaissons pas. La femme, nous l'avons réduite dans notre existence à sa plus simple expression. La possession hebdomadaire.
Une lecture par Fernand Ledoux en 1965. Bonjour Barbara Giraud.
Bonjour.
Vous êtes donc l'autrice d'un livre sur la sexualité féminine dans les romans des frères Goncourt. Vous l'avez intitulé « L'héroïne goncourtienne entre hystérie et dissidence », livre publié en 2009 aux éditions Peter Lang. Et dans cet ouvrage, eh bien, vous dites notamment que Edmond Goncourt, jusqu'à la fin de sa vie en 1896, reste persuadé, je cite, que les femmes de 40 ans qui n'ont pas de mari ni d'amant sont folles par moments dans le secret
de leur intérieur. Il le dit dans son journal du 5 octobre 1895. Alors ce qui frappe d'emblée, évidemment, c'est la terrible misogynie, en tous les cas, d'Edmond Goncourt.
Oui, enfin, tous les deux, hein, mais oui, c'est.
Et lui peut-être plus que son frère.
Oui, apparemment oui. Donc c'est Edmond qui était, enfin tous les deux de toute façon. Hein, la misogynie parcourt leur journal comme on l'a vu plusieurs fois cette semaine. Hein. Mais en même temps au XIXe siècle, qui n'était pas misogyne aussi. Hein, donc c'est une misogynie crasse. Hein, donc en disant que la femme est un animal mauvais et bête, à moins d'être élevée extrêmement civilisée. Donc, mais sinon, c'est une machine à fécondation. Donc, oui. Mais en même temps, lire les romans des Goncourt à la simple lumière de leur misogynie est considérablement réducteur, à mon avis, parce qu'en cela, on passe à côté de la complexité, vraiment, qui fait leur œuvre, à travers les tensions, justement, qui assaillent leurs personnages. Vous avez dit tout à l'heure que les titres de leurs romans ne sont que des titres de femmes. Hein, Madame Gervaiseff, Sœur Philomène, Germilly la Certeuse, la fille Elisa. Donc il y a des tensions qui assaillent ces personnages dans chacun des romans. Et donc il y a quand même quelque chose de dit sur ces femmes qui est aussi important.
Donc c'est très paradoxal et c'est avec ça qu'on voudrait justement développer. C'est ça qu'on voudrait justement développer avec vous parce que ils se sont beaucoup intéressés au fond à la condition féminine. Qu'est-ce qui les intéressait en particulier ?
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que donc c'est évidemment très paradoxal. Ce qui les intéressait, c'était de saisir, d'essayer de saisir sur le vif, comme ils disent, hein, de saisir cette jeune fille en devenir. Donc dans tout leur roman, il y a à un moment donné. Souvent au début, un retour en arrière, en tout cas une monographie de la petite fille qui devient jeune fille. Hein, et c'est vrai que le personnage de la jeune fille au XIXe siècle, et Denis Pernaud l'avait dit dans une émission au mois de septembre, c'est une puissance à contrôler. Cette jeune fille est entourée de discours de contrôle, alors le discours religieux, médical, moral, en ce qu'elle est une menace potentielle au bon ordre de la société bourgeoise, mais c'est en même temps un personnage complètement anti-romanesque, parce que c'est un personnage qui n'a pas le droit à la parole, qui sort du couvent et qui est limité à une situation d'attente qui est l'attente d'un mari. Donc il n'y a rien de moins romanesque finalement, et ce qui est à la fois très tentant pour les romanciers d'essayer d'en faire un personnage qui ait quelque chose à dire ou dont on puisse dire finalement quelque chose et essayer à chaque fois d'en capter l'essence.
Mais alors cette idée que les femmes sont une puissance à contrôler, est-ce que les Goncourt y souscrivent ou est-ce qu'ils s'inscrivent en faux avec cela ?
Oui, alors c'est pour ça que dans mon ouvrage, j'ai voulu vraiment regarder ce qui m'a frappé lorsque j'ai lu ces romans pour la première fois, c'est à quel point la maladie est présente dans ces romans, à quel point ces femmes sont malades de névrose, d'hystérie, à quel point elles ont... Alors, on a tout à coup, au milieu du roman, une crise d'hystérie ou une attaque des nerfs.
Une phtisie ou même une maladie de cœur pour René Mauprin.
Voilà.
La chlorose de sœur Philomène. Enfin, elles souffrent toutes un petit peu de quelque chose et souvent à cause de leur sexualité, d'ailleurs.
Alors, oui, ce qui est latent, parce que c'est ces jeunes femmes, ces jeunes filles, elles sont toutes à des niveaux différents. Elles ont toutes des désespoirs, des désespérances. Il y a des failles à chaque fois qui s'insèrent dans leur vie et qui en font finalement des malades. Donc c'est voir en même temps quelle est la place de ces femmes dans la société et comment est-ce que les tensions qui s'érigent entre elle et la société et les institutions, parce qu'il y a l'institution du mariage, l'hôpital dans Sœur Philomène, la famille bourgeoise avec René Mauprin, la prison avec fille Elisa. Donc il y a des tensions et ces femmes viennent se heurter à chaque fois dans ces institutions, et c'est là que la faille éclate, et c'est là que la crise d'hystérie éclate ou que la névrose éclate.
Alors je vous propose d'écouter justement un premier extrait d'un livre des Goncourt, en l'occurrence Germinie Lacerteux, puis vous allez peut-être pouvoir nous le commenter ensuite.
De cette rupture, Germinie tomba où elle devait tomber, au-dessous de la honte, au-dessous de la nature même. De chute en chute, la misérable et brûlante créature roula à la rue. Elle ramassa les amours qui s'usent en une nuit, ce qui passe, ce qu'on rencontre, ce que le hasard des pavés fait trouver à la femme qui vague. Elle n'avait plus besoin de se donner le temps du désir, son caprice était furieux et soudain, allumé sur l'instant. Affamée du premier venu, elle le regardait à peine et n'aurait pu le reconnaître. Beauté, jeunesse, ce physique d'un amant où l'amour des femmes les plus dégradées cherche comme un bas idéal, rien de tout cela ne la tentait plus, ne la touchait plus. Ses yeux, dans tous les hommes, ne voyaient plus que l'homme. L'individu lui était égal. La dernière pudeur et le dernier sens humain de la débauche, la préférence, le choix, et jusqu'à ce qui reste aux prostituées pour conscience et pour personnalité, le dégoût même, elle l'avait perdu. Et elle s'en allait par les rues, battant la nuit, avec la démarche suspecte et furtive des bêtes qui fouillent l'ombre et dont l'appétit quête. Comme jetée hors de son sexe, elle attaquait elle-même, elle sollicitait la brutalité, elle abusait de l'ivresse, et c'était à elle qu'on cédait. Elle marchait, flairant autour d'elle, allant à ce qu'il y a d'embusqué, d'impur dans les terrains vagues, aux occasions du soir et de la solitude, aux mains qui attendaient pour s'abattre sur un châle.
Qui a-t-il dans la tête de cette femme? Des idées
de Germinie Lacerteux, lu par Denis Manuel. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Barbara Giraud?
Alors, Germinie Lacerteux, c'est avant tout l'histoire de la déchéance d'un corps, donc du corps de cette femme des classes laborieuses, hein, des classes ouvrières. Donc,
c'est même une métaphore de la déchéance sociale.
Oui, exactement. Donc c'est Germinie est aussi victime ici parce qu'elle souffre des souffrances que lui imposent les gens de sa propre classe. Donc il y a aussi une double aliénation ici. Donc elle est femme déjà. Et puis elle souffre dans son corps des violences sociales de sa propre classe. Donc les Goncourt en fait font ici le premier, ce qui est considéré comme le premier roman naturalisme, hein, ce qui est évidemment dit dans leur préface. Hein, nous nous sommes demandé si le monde sous le monde n'avait pas droit au roman. Donc on parle ici d'une enquête, sociale, d'une recherche psychologique, la clinique de l'amour. Donc c'est à la fois physiologique, c'est revenir donc sur toute la vie de Germinie, et c'est ce que font les Goncourt. Ils nous donnent les informations sur toute la vie de Germinie, son enfance, etc., et quelles sont les failles dans ce personnage ou dans cette vie dans lesquelles vont s'engouffrer donc la névrose et puis l'hystérie et puis après cet appétit sexuel d'animal, hein. Elle devient véritablement un animal sexuel qui erre dans les rues.
C'est étonnant que ça les fascine quand même à ce point-là, eux qui, à part Jules, considèrent qu'au fond, les femmes, c'est même pas tellement attirant, qu'au fond, si on pouvait s'en passer, ce serait pas plus mal. Et pourtant, ils ont l'air passionnés par cette question de la soi-disant hystérie des femmes et de leur vie sexuelle aussi.
Oui, c'est quelque chose qui revient dans tous les romans. Donc, montrer l'émergence de cette névrose, l'émergence de... Donc, pourquoi est-ce que ces femmes... Donc, c'est évidemment pas décrit de manière ouverte. Hein. Il faut, en tant que lecteur, il faut aller chercher dans les vides et dans les creux de la narration pour pouvoir... c'est ce que j'ai tenté de faire dans ma thèse. D'aller chercher au plus près du personnage, donc les raisons, les causes pour lesquelles ces femmes deviennent malades. Donc il semblerait que l'enfance, hein, soit, donc c'est ce qui est récurrent dans leur roman en tout cas, hein, l'enfance est le moment où les jalons s'opposaient pour que la maladie prenne place. Hein, c'est vraiment le moment clé, donc l'enfance et la femme qui devient, la petite fille qui devient femme, hein, c'est le moment où alors pour employer un vocabulaire un petit peu anachronique, les traumatismes sont vécus.
Mais et, c'est peut-être pas si anachronique que ça, parce que Barbara Giraud, on est quand même au début fondements, des jalons de la psychanalyse. Mm-hmm. On est un petit peu avant Freud, mais on est à l'époque de Charcot. Et oui, on imagine que tout ça, comme vous-même vous le dites dans votre ouvrage, ça infuse quand même un petit peu la pensée des Goncourt.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, ils le disent à propos de Germinie Lacerteux, hein, souvent une impression d'enfance donne le pli, la ligne à tout un caractère, à toute une vie. Donc oui, il y a déjà, peut-être à l'état embryonnaire, mais en tout cas déjà le fait que dans l'enfance, dans ce qui a fait que le personnage ou l'individu est en devenir, donc c'est dans cette période-là que évidemment on se forge l'adulte qui sera là après.
Est-ce que Barbara Giraud, est-ce que vous pensez pas qu'il y a quand même une espèce d'identification d'une manière même un peu étrange et même presque inconsciente des Goncourt vis-à-vis de ces femmes qu'ils décrivent?
Alors oui, elles sont toutes d'une manière différente à chacune, hein, mais elles sont toutes très sensibles. Ce sont toutes des matières, sensibles. Elles ont une capacité à sentir les choses qu'évidemment eux ont. Hein. Ce sont des névropathes. On l'a dit avant, hein, on l'a dit tout à l'heure. Ce sont des martyrs de l'art, de la création littéraire. Donc ils ont une sensibilité exacerbée. Et tout leur personnage féminin, évidemment, représente cela, cette sensation. Donc au départ, ce sont des personnages avec une hyper-acuité des sens, donc qui perçoivent et qui sentent les choses de manière excessive, je dirais.
Autre livre qui met en scène une femme, La fille Elisa, je vous propose d'en écouter tout de suite un extrait.
Le directeur reprit. Vol de bons de cantine, refus de travail, c'est tous les samedis la même chanson. Hé, qu'est-ce que vous dites ? Pas de réponse d'Elisa. Ainsi c'est bien entendu, n'est-ce pas ? Il y a chez vous la volonté de résister à votre directeur. Pas de réponse d'Elisa. Voyons, tête de bois, parlez, défendez-vous. Je veux que vous parliez, s'écria d'une voix rageuse le directeur. Pas de réponse d'Elisa. La perversité innée, soupira le bien portant aumônier en faisant tourner ses pouces. Alors c'est un défi. Pas vrai, numéro 7999 ? Pas de réponse d'Elisa. Dites au moins que vous ne recommencerez pas. Vous verrez que la matine ne le dira pas. Elisa ne répondit pas plus que les autres fois. Ses yeux s'élevèrent seulement vers le directeur. Sa bouche se contracta dans une résolution de ne rien dire. Un nuage haineux passa sur son visage. Et dans la femme que le tribunal avait sous les yeux, sembla se glisser un être stupide et méchant. À plusieurs mois de là, dans la même salle et devant les mêmes juges, Elisa était encore à la barre, en son enfermement farouche et son mutisme indompté. Le directeur disait de sa petite voix musicale que la colère rendait plus marseillaise que d'ordinaire. « Toujours la même, et pis que jamais, et plus mauvaise diablesse chaque semaine. »
Une lecture par Nadine Basile de cet extrait dans lequel on sent quand même une forme d'empathie pour cette fille Elisa, prostituée criminelle, dans ce roman qui met en lumière deux mondes en marge, celui des maisons closes et celui des prisons. Qu'en retenez-vous, Barbara Giraud ?
Alors là, c'est un roman qui est assez différent des autres, puisque dans la préface, donc Edmond, là il est tout seul, hein, parce que...
C'est le premier livre qu'il écrit après la mort de Jules, d'ailleurs.
Oui, alors il y a les frères Zamgano et après il y a la fille Elisa. Donc c'est des recherches qu'ils avaient fait ensemble. On en a parlé lundi avec Pierre Ménard, vous en avez parlé. Et ils ont fait des recherches ensemble sur les prisons. Ils sont allés visiter la prison de Clermont à côté de Paris avant la mort de Jules. Et ensuite donc Edmond a retravaillé sur leurs documents afin de faire ce livre. Et donc dans cette préface, hein, donc Edmond dit oui, je parle de la prostitution et de la prostituée, mais ce n'est qu'un épisode. L'intérêt de mon livre, c'est la prison et la prisonnière, et essentiellement donc le système Auburn, qui était un système qui condamnait les prisonnières au silence absolu et total. Donc, et il dit, hein, j'ai travaillé à le combattre, ce système, parce que ce qu'il démontre dans son œuvre, donc c'est le poids formidable que l'institution pénitentiaire fait porter à ces prisonnières condamnées au silence.
Et c'est pour cette raison que du coup vous convoquez Foucault dans tout un chapitre pour faire un parallèle qu'on n'attend pas forcément entre la pensée de Foucault dans Surveiller et punir et les romans des Goncourt.
Oui, c'est cela, parce que l'institution pénitentiaire, ici, elle est au centre du livre et elle est au centre aussi de la folie. Donc Edmond a quand même, encore une fois, dans la première partie du roman, il a montré à quel point la vie d'Elisa pouvait conduire à la folie, le fait qu'elle soit prostituée, qu'elle ait eu la fièvre typhoïde deux fois, apparemment c'est des prodromes de la folie aussi, plus la prostitution, mais c'est essentiellement... Il y a un petit peu la négation de ce qu'il voulait prouver en montrant que Elisa, finalement, elle allait devenir folle de toute manière. Mais la prison est ici vraiment ce qui crée la folie, parce que avec le silence, on prive la personne, l'individu, de parole. Et donc c'est à partir de ce moment-là que Elisa commence peu à peu à descendre les échelons de l'humanité, qui mène insensiblement à une créature intelligente, à l'animalité. Donc il y a la négation de la raison ici qui est mise en place.
Pardonnez-moi, il nous reste à peine une minute, simplement pour signaler qu'il n'y a pas que des petites gens, il n'y a pas que des filles en perdition finalement dans les romans des Goncourt, il y a aussi, comme le disait Bernard Vouillot en première partie, des femmes de la bourgeoisie, il y a aussi des romans sur les actrices de théâtre, comme par exemple La Faustin, très rapidement, peut-être un commentaire là-dessus.
Alors La Faustin, c'est un des romans où le discours médical, parce qu'on est en pleine époque Charcot, le discours médical est théâtralisé et jusqu'au ridicule. Hein. On a une désacralisation, une hystérisation finalement du discours ici et du style. Et La Faustin est le seul personnage féminin qui ne meurt pas. Ce sont les hommes qui sont faibles dans ce roman.
Et ben voilà qui est intéressant, qui donne envie de retourner lire ces livres avec cet angle en tête. Merci beaucoup Barbara Giraud.
Merci.
Pour aller plus loin, on peut aussi se reporter donc à votre ouvrage sur l'héroïne goncourtienne dans le volume 16 de la revue Le Romantisme et après en France, publié par l'éditeur international Peter Lang. La Compagnie des œuvres, c'est toujours son indispensable équipe. Laurence Millet, Laurence Genepin, Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault, Romain Billet et Somaya Dabèche. La semaine prochaine, tout autre chose, nous parlerons du metteur en scène et auteur de théâtre Jean-Luc Lagarce, auteur au programme du bac de français cette année.